Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Mel Emmanuel.
C'est l'heure du dernier point de l'actualité. Bonsoir à tous. Une séance de travail du Sénat ivoirien a vu hier jeudi l'adoption du projet de loi portant statut du corps diplomatique par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'institution. À Madagascar, plus de 700 personnes se sont réunies à l'Assemblée nationale ce vendredi pour réclamer la suspension de l'élection présidentielle. Et ce journal se refermera avec un dossier d'actualité sur la rentabilité de la vente à proximité des domiciles, dossier réalisé dans la région du Tampuy. Nous ouvrons cette édition avec un mot d'économie. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. Cela est démontré par le programme qu'elle mène dans le pays qui se chiffre à un peu plus de 6 milliards de dollars. Un montant assez important qui couvre plusieurs secteurs, a révélé la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Ouangui-Ligira. Elle a été reçue mercredi dernier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Mabéa a recueilli pour nous ses propos à sa sortie d'audience. On l'écoute.
C'est un programme qui s'exécute très bien et nous pensons que vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc j'ai discuté avec son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus? Les pays ont été touchés par les multiples crises et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec son Excellence avant le sommet de la COP28 parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays. Mais en même temps, l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle.
Économie toujours, loi de finances pour l'année 2024. Le ministère de l'Environnement, du Développement et de la Transition écologique a eu son budget approuvé par l'ensemble des députés de la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agit de 27 milliards de francs CFA. À cette occasion, ce jeudi 9 novembre 2023, le ministre en charge de ce département a évoqué la question de la fiscalité environnementale. À Saori Konan Jacques.
Concernant la fiscalité, je voudrais rappeler que les dépenses de protection de l'environnement et de promotion de développement durable coûtent cher. C'est des montants énormes, mais que nous espérons financer avec la mobilisation des financements de fonds verts qui sont disponibles en abondance, mais aussi avec la fiscalité environnementale. Mais la fiscalité environnementale nécessite de mieux définir l'assiette de pollution. Ça nécessite un ensemble de prérequis que nous sommes en train d'adresser, notamment l'assiette de pollution, en vue de proposer des taux plus adaptés et une technologie environnementale pour mieux définir les assiettes. Et nous espérons très rapidement avoir les éléments nécessaires pour adresser une fiscalité de porte plus judicieuse qui permet de mobiliser des fonds pour accompagner la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, en ce qui concerne la nature des financements extérieurs de notre budget, ces financements sont essentiellement des dons. Et même quand il s'agit d'emprunts, c'est des emprunts qui sont encadrés par le ministère des Finances, qui tient compte des ratios en matière d'endettement et un ensemble d'éléments qui permettent d'avoir un endettement raisonnable qui ne surenchérit pas notre endettement.
À l'instant, les dires d'Assaoré Konan Jacques, rapporté par Junior Cardin. Direction Yamoussoukro, où la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a adopté ce jeudi 9 novembre 2023 à l'unanimité de ses membres le projet de loi portant statut du corps diplomatique. Projet de loi présenté par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Wotabuna Ouattara s'est confié à la presse au terme des travaux. On l'écoute au micro d'Emile Yao.
Sur instruction de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, son Excellence Monsieur Léon Kakou Adom, nous sommes venus devant la Chambre haute du Parlement présenter un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que la grande famille des diplomates ivoiriens attend ce jour. Vous comprenez que c'est un jour historique et nous avons des mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État qui nous a instruits à l'effet de faire une relecture des textes précédents et à l'effet d'aligner le statut du corps diplomatique sur les deux grands corps, notamment la magistrature et le corps préfectoral. Les vénérables sénateurs nous ont suivis, contribuant ainsi à la réalisation de la vision et des aspirations du président de la République. En tant qu'émissaire du gouvernement, je suis heureux d'être un acteur de cette nouvelle dynamique qui va permettre à la diplomatie ivoirienne d'être encore plus rayonnante, gagner en célérité, gagner en efficacité.
La 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, démarrée le 3 novembre dernier, a pris fin ce vendredi 10 novembre 2023 dans la commune de Yopougon. Cette initiative de la Direction régionale des transports des lagunes et des grands ponts et ses partenaires a instruit les agents de la police municipale de Yopougon sur la stratégie nationale de la sécurité routière, le partage de la route et l'assainissement de la voirie. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Doumbia Yaya, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, a annoncé les initiatives du conseil municipal en matière d'assainissement pour la sécurité des usagers de la route.
Par les grands travaux qui ont lieu au niveau de la commune de Yopougon, les embouteillages sont devenus très monstres et la police municipale a été mise à contribution. Au-delà de cela, une campagne de sensibilisation a commencé déjà auprès des populations afin de libérer les artères au niveau de la commune de Yopougon. Le dégraissement va pratiquement commencé très bientôt, mais il s'agit de libérer les artères à cause des emprises anarchiques.
Cet engagement du conseil municipal s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale de la sécurité routière, a rappelé le directeur régional des transports, des lagunes et des grands ponts, Sako Brahima.
Alors le thème, c'est la cohabitation sécuritaire des usagers de la route. Une route, c'est un endroit de partage. Et quand chacun saura son emplacement, il aura moins de conflits. En fait, les conflits, c'est les accidents. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de piétons qui étaient fauchés parce que l'espace qui leur était réservé est occupé par les commerces. Donc automatiquement, ils sont obligés de prendre la chaussée qui est la voie dédiée donc aux véhicules. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne viennent pas à Yopougon à cause de l'embouteillage. Ou bien quand on vient à Yopougon, soit très tôt ou très tard. Mais c'est pour venir ressortir tous ces problèmes que nous sommes justement là pour apporter notre contribution et échanger donc avec les autorités municipales.
Le ministère des Transports s'engage à accentuer dans les jours à venir la sensibilisation des usagers à plus de prudence sur nos routes à l'approche des fêtes de fin d'année et de la Cannes 2023.
Plus de 37% de pots de peinture décorative vendus aux fabricants Côte d'Ivoire contiennent majoritairement une forte teneur au plomb. C'est ce qui ressort des résultats de l'étude et sensibilisation sur les dangers de l'exposition au plomb menée par le Centre africain pour la santé environnementale et son partenaire LIP, une ONG internationale en collaboration avec le ministère de la Santé et celui de l'Environnement. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu ce mardi 7 novembre à Abidjan. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Selon le président de l'ONG CAS, la présence sur le marché ivoirien des peintures au plomb est une menace pour la santé infantile. Dominique Bali Croco.
Ce plomb-là est responsable d'anémie chez les enfants et de tout ce qui est maladie osseuse de saturnisme. Donc les os deviennent fragiles et les fractures sont monnaie courante. À côté de cela, il y a tous les dommages irréversibles sur le cerveau, notamment liés à la baisse du quotient intellectuel et l'aptitude à devenir violent que le plomb cause chez l'enfant.
En plus de la santé des enfants, cette substance peut conduire à la stérilité chez les peintres, nous dit le président de l'ONG CAS.
Les peintres sont les plus exposés lors des opérations de préparation des surfaces à peindre, donc de décapage des murs et en même temps aussi de repeinte. Il y a des poussières qui sont émises et ces poussières sont fortement chargées en plomb. Le plomb va être aussi inhalé par les peintres qui vont souffrir de dommages neurologiques et aussi sur les organes reproducteurs. Cela conduit à une baisse de la fertilité masculine comme féminine aussi et la propension à devenir violent et une forte irritabilité.
Nafissia Toussis, gestionnaire de programme et chef d'équipe au projet LIP, revient sur les actions menées dans le cadre de ce projet.
Au lieu de juste dire voilà la loi, il faut la respecter, nous disons aux fabricants de peinture voilà la loi et voilà comment nous pouvons vous aider à vous conformer aux textes qui sont en vigueur. Nous arrivons à les orienter à trouver les matières premières nécessaires pour fabriquer des peintures sans plomb. Nous les aidons aussi à tester leurs produits pour voir s'il y a effectivement du plomb et après la reformulation à tester pour voir si ça a fonctionné.
Selon cette enquête, près de 21 marques de peinture sur le marché ivoirien contiennent du plomb.
La 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, se poursuit actuellement au parc des expositions d'Abidjan. À ce MIVA participent plusieurs artisans d'ici et d'ailleurs qui disent attendre de l'aide financière sous forme de dons pour le développement de leurs activités. Christelle Yesso.
Des vêtements africains brodés, des sacs avec motifs traditionnels, des tableaux et des sculptures, c'est ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous franchissez l'entrée du parc des expositions d'Abidjan où se tient actuellement le marché ivoirien de l'artisanat. Le MIVA, qui en est à sa 5e édition, est le lieu tout trouvé pour promouvoir l'artisanat, comme l'explique Guy Kofi Kwadio, président de la chambre de commerce de Yamoussoukro.
C'est le plus gros marché, je peux dire ivoirien, en termes d'artisanat. Donc il est important non seulement de venir avec mes pièces présentées aux yeux du monde entier, mais aussi côtoyer aussi des artisans qui viennent de d'autres pays.
Ils sont venus de partout, les artisans, pour faire valoir leurs produits de la Côte d'Ivoire, de l'Europe, mais aussi de l'Inde. À côté des stands, se tiennent aussi des ateliers et des conférences. Au titre de conférencier, Salif Ouattara, responsable projet de ECAM, entreprise créative des agriculteurs de Meagui, a relevé les difficultés que rencontrent les artisans tout en présentant leurs attentes.
Nos attentes, c'est de vraiment avoir un réseau d'artisans solide et aussi c'est de bénéficier des petites subventions qui n'est pas forcément des prêts pour permettre aux différents artisans d'explorer réellement leur potentiel.
Le MIVA, c'est au total 245 métiers issus de 8 branches d'activité et regroupés en 40 corps de métiers représentés.
Hors de chez nous, à Madagascar, suite à l'annonce le 9 novembre 2023 de la demande de suspension du processus électoral par la présidente de l'Assemblée nationale, la plateforme de médiation dirigée par la chef de la Chambre basse et le Conseil des Églises chrétiennes a appelé toutes les forces vives de la nation à se réunir ce vendredi matin. Plus de 700 personnes d'horizons différents ont répondu présentes. La concertation a duré 6 heures et s'est achevée à la mi-journée. Il est urgent de prendre une décision. Et pour cela, nous vous faisons passer une pétition pour récolter des signatures et c'est ce qui fera notre force, a déclaré Christine Razanamahasoa, la présidente de l'Assemblée nationale, face à un parterre de participants. Retour en Côte d'Ivoire avec du sport. L'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, UFRESA, a organisé ce mardi 7 novembre 2023 son premier symposium marquant le début de ses activités. Quelle place pour les femmes dans le journalisme de sport en Afrique, enjeux et perspectives? C'est le thème sur lequel s'est tenue cette rencontre de haut niveau de l'UFRESA au centre sportif ivoirien-coréen à la Alassane Ouattara d'Adjamé. Jean-Mélène Bitti.
À cette rencontre, Geneviève Brogregbe, ancienne ministre des Sports, a invité les reporters sportifs à s'imposer par leur travail.
Le temps est venu pour la femme elle-même d'assurer sa visibilité, de prendre toute sa place dans la société. Quand elle est nommée à un poste, de travailler de telle sorte que ne fera pas la promotion de la femme avec le charme, mais c'est avec la compétence.
Dr Karim Wali, panéliste, a engagé les membres de l'UFRESA à publier des ouvrages afin de faire connaître leur corporation.
Il faut mener des recherches dans ce domaine journalistique. Quelles ont été les pionnières? Qui sont-elles? Parce qu'on ne les connaît même pas. Et
là, il y a un travail à faire en faisant un film qui va retracer le parcours des premières femmes journalistes sportives. En dehors de cela, il faut pouvoir publier des ouvrages qui seront mis à disposition du grand public pour faire la promotion des femmes journalistes sportives.
La présidente Lufresa est revenue sur la prochaine activité de son organisation, Elisabeth Goli.
Nous prévoyons une autre activité au premier trimestre 2024 que nous allons appeler les talents de Lufresa. Et les talents de Lufresa, ce ne sera plus cette fois-ci de récompenser les athlètes féminines, mais c'est de récompenser toutes les femmes qui sont dans le métier de la presse.
Jeune reporter sportive Tolu Poidounou Ilari se dit très heureuse de participer à ce symposium.
À la sortie de ces séances, je serai encore plus aguerrie. J'en aurai encore plus en expérience et j'en connaîtrai davantage sur mes ambitions et sur ma passion surtout.
Pour ce premier symposium, c'est près d'une dizaine de pays africains qui étaient présents.
À présent, intéressons-nous à la vente à proximité des domiciles. Elle est de plus en plus pratiquée par de nombreux habitants des différents quartiers de la ville de Mans. On y trouve des vendeuses de vivriers, également des bouchers qui exercent leurs activités non loin de leur domicile. Des pratiques rentables, selon les concernés visités par notre correspondant dans la région du Tonkpi, qui fait le constat dans ce dossier d'actualité, Stéphane Adams.
Au quartier Thérès de Mans, c'est ici non loin de son domicile que Dame Tokpa Jeannette exerce son petit commerce qui lui facilite la tâche.
Ça me fait aussi du bien parce que je suis devant ma cour. J'ai ma sœur qui est un peu souffrante. En vendant ici, je peux rentrer là-bas. Je veille un peu sur elle, je viens. Pour marcher, les places sont très chères actuellement là. Moi, je suis une veuve de 5 enfants. Je vais pas aller courir au soleil là-bas alors que devant ma porte là, vraiment, je trouve que c'est mieux. Ça marche un peu. Même si j'ai un bénéfice de 2000 francs par jour, c'est un peu bon.
Une habitante du dit quartier, trouvée sur les lieux, en profite.
Je suis venue, je vais payer gomo, opi, gnagna, opi, tomate, opi, manioc. Si moi, je vais partir à Gamaché là-bas, moi, je vais te fatiguer. À cause de ça, je vais venir ici.
Non loin de là, Charlotte Dion, ancienne vendeuse au Grand Marché de Mans, sur sa table, on trouve toutes sortes d'enrées alimentaires. Elle vante les avantages d'exercer son commerce à proximité de son domicile.
Au niveau de la fatigue, il y a une différence. Au marché, je me réveille tôt. Mais maintenant, je ne me réveille pas tôt comme ça. Je prends mon temps. Et quand je fais les achats, ceux qui portent les bagages, là, ils viennent avec ça. Donc, je ne suis pas fatiguée à ce moment. Ça ne me fatigue pas. Au marché, les gens nous aident et puis on les paye. Ici, les enfants nous aident à ramasser. Ça nous permet d'éviter les dépenses.
Vendre non loin de son domicile est aussi pratiqué par les bouchers. Pour Ahmed Diallo, la cinquantaine révolue, vendre dans son quartier met à l'abri de la concurrence.
Quand tu as dit concurrence, parce que non, celui-là gagne que moi, ça pousse les gens à aller pratiquer certaines choses à l'africaine. Par exemple, je vends au moins 40 kilos par jour que tu n'arrives pas à vendre. Le voisin vend au moins 15 à 20 kilos par jour. C'est dire que peut-être que j'ai l'envoûté. Je serai obligé d'aller parcourir les féticelles, voir comment j'ai fait pour que ça marche. Je vais essayer de ralentir un peu mes activités. Je préférais venir au quartier, m'éloigner un peu du marché pour éviter tout cela. C'est mieux qu'au marché.
Cette riveraine met à profit cette approche du boucher.
Comme il est juste à côté, c'est pas loin de la maison, donc on sort à deux pas seulement, tu as ta viande. Avec lui, ça se passe bien, et puis c'est un bon type aussi. Le culot arrive, et puis il fait le petit cadeau aussi.
Rappelons que la vente à proximité des domiciles est une pratique ancienne. Commerçants et riverains y trouvent leur compte. Ni l'un ni l'autre n'a besoin de parcourir des kilomètres pour satisfaire ses besoins. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
C'est sur ce dossier d'actualité que va se refermer cette édition, le rappel des titres. Une séance de travail du Sénat ivoirien a vu hier jeudi l'adoption du projet de loi portant statut du corps diplomatique par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'institution. Et pour terminer, à Madagascar, plus de 700 personnes se sont réunies à l'Assemblée nationale ce vendredi pour réclamer la suspension de l'élection présidentielle. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain dès 7h pour un autre parcours de l'actualité. Tout de suite, Sonia Nzian s'installe pour Humanitaire.